Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'état des armées françaises et de leur capacité en vue d'une possible guerre, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Dominique Merchet, journaliste et correspondant défense à l'Opinion, l'un des meilleurs journalistes français sur les questions de défense depuis maintenant plus de 30 ans, puisque vous en traitiez avant dans les colonnes de Libération, puis de Marianne, auteur récemment de « Sommes-nous prêts pour la guerre ? L'illusion de la puissance française » aux éditions Robert Laffont. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour.
Alors je vais dire tout de suite, c'est un peu particulier pour moi de vous recevoir parce que je vous lis depuis vraiment très longtemps et je me suis souvenu qu'à l'époque où je commençais à m'intéresser à ces questions de défense, c'était très largement par votre blog Secret Défense que je m'informais, donc disons vers la fin de la décennie 2000, qui était donc à l'époque chez Libération, puis qui a ensuite migré avec vous vers Marianne puis L'Opinion. Et je ne sais pas exactement ce que ça disait de moi, mais enfin j'ai le souvenir que c'était vraiment à cette époque-là, donc 2007-2010, l'une des principales sources gratuites en ligne sur l'actualité des armées françaises, et pas que françaises d'ailleurs. Et ce livre peut donc apparaître à certains égards comme un aboutissement de ce travail de très long terme sur les armées françaises. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous le voyez vous-même, puisque vous y faites une sorte de bilan à l'instant T des capacités des armées françaises et de leurs nombreuses limites, particulièrement si jamais une guerre devait nous atteindre. Et donc, c'est un bilan qui peut apparaître assez sévère, voire par séquence inquiétant. On reparlera ensuite évidemment du cadrage que vous en faites, parce qu'évidemment, une armée et ses capacités s'apprécient à l'aune des dangers auxquels elle doit faire face. Mais j'aurais aimé repartir de cette perspective de temps long, vraiment avec la question la plus simple, mais est-ce que vous avez l'impression que depuis que vous observez ces armées françaises, elles ont baissé en capacité, Jean-Dominique Merchet ?
Non, elles n'ont pas baissé en capacité. Simplement, le contexte mondial, le contexte géopolitique est différent aujourd'hui. Il y a 30 ans, lorsque je commence de manière très active à m'intéresser au sujet de défense et à l'armée française à titre professionnel à Libération, je commence réellement en 1995. Et c'est juste au moment où tout va changer dans l'armée française, avec la professionnalisation décidée en 1996. Et j'assiste, cette incroyable transformation de l'armée française, qui était cette armée de la guerre froide, qui n'avait pas beaucoup changé depuis la fin de la guerre d'Algérie. En fait, il y avait eu cette séquence, on va dire, début des années 60, milieu des années 90. Et puis, il y a cette grande transformation d'une armée en corps expéditionnaire professionnel. Ça a été absolument passionnant à couvrir. J'étais et je reste un partisan convaincu de l'armée professionnelle, de ce modèle qui a été choisi à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, et ça c'est le privilège, parfois l'inconvénient, mais en tout cas le privilège de l'âge, on assiste à la fin de cette période qui s'est ouverte dans les années 90 avec la fin de la guerre froide et les opérations extérieures, les OPEX. Et là, en ce moment, on assiste à la fin de ça, avec le retour d'une menace russe sur le continent européen, très forte, et l'échec de la plupart des OPEX. Pas toutes, mais la plupart. Et donc, la dernière partie, c'est mon livre, quelqu'un l'autre jour me demandait, mais tu as mis combien de temps pour l'écrire ? Je lui dis, j'ai mis 3 mois, réellement, mais en même temps, j'ai mis 30 ans. Et c'est vrai que c'est une forme de bilan d'étape, alors qu'une nouvelle période s'ouvre qui nécessite, à mon avis, de remettre en cause nos idées, ou en tout cas ce que le général de Gaulle appelait dès 1934 l'armée de nos habitudes.
Alors, on va entrer tout de suite dans... Il y a plein d'insuffisances ou de limites ou d'angles morts que vous détaillez sur ce que sont les armées françaises aujourd'hui. On va commencer peut-être par le dur, qui est quelque chose qui n'est pas totalement inconnu. Ce sont les insuffisances quantitatives. Voilà, on l'entend assez régulièrement à ce micro et ailleurs, cette idée qu'on n'a pas assez pour nos ambitions. Mais en l'occurrence, vous avez un chiffre dans le livre que je n'ai pas vu souvent, qui est ce chiffre de 80 km. C'est-à-dire, selon vous, ça ne vient pas de vous, mais la longueur de front que la France serait capable de tenir seule dans le cadre d'un engagement de haute intensité. Appelons ça un engagement majeur, c'est mieux. C'est mieux, je le dis par parenthèse, parce que comme vous le remarquez très bien, et on le dit souvent, quand on se bat, c'est toujours de haute intensité pour la personne qui est au milieu, donc engagement majeur, c'est peut-être plus délicat. Mais donc, ce chiffre, d'où il vient et qu'est-ce qu'il montre ?
Alors il vient très concrètement de l'armée de terre, c'est-à-dire l'armée de terre, comme toutes les armées, ont des plans. Et en cas d'engagement de la France au sein d'une coalition, clairement d'une coalition otanienne, ce que pourrait fournir la France, c'est un certain nombre de moyens et d'hommes. En gros, 25 000 hommes, la capacité de commander un corps d'armée et de fournir à ce corps d'armée une division lourde. Un autre partenaire devant fournir la seconde division de ce corps d'armée. À partir de ces chiffres, avec les ABAC, les méthodes de calcul des militaires, c'est un certain nombre de brigades. Chaque brigade peut tenir un certain nombre de brigades mécanisées, blindées mécanisées, peuvent tenir un certain front, en gros une vingtaine de kilomètres. On fournirait 4 brigades, résultat 80 kilomètres. C'est le contrat.
C'est la distance Lille-Dunkerque.
Mais c'est pas grand-chose. Voilà, c'est pas grand-chose quand on voit aujourd'hui que l'Ukraine a un front de 900 km, peut-être un peu plus, et que sur ce front, elle a 350 000 hommes. Donc ça ramène les choses à une juste proportion. La force opérationnelle terrestre de l'armée de terre, c'est-à-dire la totalité des moyens que l'armée de terre peut engager de manière opérationnelle, c'est 77 000 hommes. Mais ça, il y a tout là-dedans. Il y a ce qui est outre-mer, dans les OPEX, le maintien sur le territoire national, plus effectivement un engagement majeur au sein d'une coalition. Donc ça nous ramène, au fond, ces chiffres sont, quand on s'intéresse à l'histoire militaire, 25 000 hommes, c'est les armées de Louis XIV. On est revenu à la taille des armées d'Ancien Régime. On est sorti avec la fin de la guerre froide de l'époque des armées de masse qui étaient apparues à partir de la Révolution et de l'Empire, qui s'était poursuivie évidemment au XXe siècle. On est revenu à des chiffres. Voilà, les grandes batailles les armées de la guerre de 100 ans, c'est 10 000, 15 000 hommes, jamais plus. On est dans ces eaux-là aujourd'hui. Mais ça a correspondu à une époque, aux 30 dernières années, époque qui est en train de se fermer.
Mais est-ce que c'est si nouveau, même par rapport à la guerre froide? Enfin, je pense, on avait fait une émission avec Michael Furkin là-dessus, même pendant la guerre froide, de toute façon, personne n'aurait attendu de la France qu'elle tienne le front si jamais les Soviétiques déboulaient.
Bien sûr.
Il y aurait toujours eu des petits segments de front sur lesquels on aurait peut-être pu compter sur les Français, sur les Britanniques. Et de toute façon, c'est les Allemands et les Américains qui étaient là pour encaisser le choc avec la masse. C'est-à-dire, dans une certaine mesure, ça a sans doute décru, mais le positionnement fonctionnel pour les... Enfin, c'est toujours ce qu'on a attendu de nous depuis les années 50, quoi.
Oui, on n'avait pas... Même à l'époque de la guerre froide, la France n'était pas sur la ligne de front. La France n'était pas face en première ligne aux armées soviétiques ou tchécoslovaques ou est-allemandes. Elle était en deuxième rideau. Ce qu'on appelait à l'époque la première armée était en Allemagne et dans l'est de la France. Et effectivement, elle ne devait pas... Alors, À l'époque du président, sous le septennat du président Giscard d'Estaing, s'est posé la question, est-ce que la France doit participer à ce qu'on appelait à l'époque la bataille de l'Avant, c'est-à-dire effectivement être engagée directement face aux troupes du Pacte de Varsovie. Ça faisait des débats, c'est à l'époque que j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces affaires, c'était des débats extrêmement virulents, qui se sont d'ailleurs poursuivis au début des années 80 sous la présidence Mitterrand, avec la création de la force action rapide, par exemple, qui à l'origine n'était pas faite pour les OPEX, mais était faite pour se projeter à l'avant en Allemagne. Ça faisait des débats parce que toujours les mêmes débats, d'une certaine manière, entre, disons, les courants plutôt atlantistes et les courants d'un gaullisme traditionnel qui disait, mais surtout pas, nous, on doit pas participer à la bataille de l'Avant et on doit rester sanctuarisé sur le territoire national à l'abri de notre dissuasion nucléaire. Oui, donc vous avez raison, c'est pas une situation nouvelle. On avait quand même, une armée beaucoup plus importante en termes de volume. Elle contribuait d'ailleurs en grande partie en deuxième rideau derrière les Américains, les Allemands et les Britanniques, elle contribuait à la mise en œuvre de la dissuasion nucléaire d'une manière assez peu avouée. Tout le monde savait que la capacité de tenir de l'armée, de la première armée française, était de l'ordre de se compter en jours, pas en semaines, en jours. Et que à partir du moment où la première armée française composée essentiellement de régiments d'appelés, aurait été détruite par le rouleau compresseur soviétique, voire par des frappes nucléaires tactiques soviétiques, c'était ce qui permettait au pouvoir français, au président de la République, d'engager la dissuasion nucléaire. Il fallait qu'il y ait un certain nombre de morts chez nous, et de morts pas de soldats professionnels, des enfants du peuple appelés sous les drapeaux, pour dire oui, maintenant nous sommes atteints dans notre chair, nos intérêts vitaux sont en jeu, et donc je vais déclencher des frappes tactiques d'avertissement qui vont permettre ensuite ceci de rentrer dans le dialogue dissuasif. C'était ça l'idée. C'était pas une idée qui était très vendable au grand public, de dire vos enfants font leur service militaire en Allemagne pour être sacrifiés, on sait que de toute façon ils ne tiendront pas. Mais bon, donc c'est de l'histoire ancienne, ça s'arrête dans les années 80, et puis on est aujourd'hui dans un contexte qui n'est pas le même. L'armée russe n'est pas géographiquement à deux étapes du Tour de France, comme le disait le général de Gaulle, et puis surtout, on voit qu'elle met 3 mois pour conquérir un patelin comme Avdiïka, au prix de pertes colossales, donc on est très 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 loin de ce qu'on a connu jusqu'aux années 80.
Oui, mais c'est intéressant, parce que on peut tout de suite passer, enfin on reparlera évidemment de ces questions quantitatives, mais on peut tout de suite passer à la question de la dissuasion, puisque c'est ce qu'on vous répondrait, d'ailleurs je pense que c'est ce qu'on vous a répondu. Le chef d'état-major des armées, il n'y a pas très longtemps, a fait une conférence où je pense que, je ne sais pas si c'est à vous exactement qui répondait, mais en tout cas, il parlait de ce segment de 80 km de front, etc. Et il disait, je le mettrai à l'extrait, je pense, il disait, mais de toute façon, ça n'a aucun sens puisqu'on a la dissuasion.
Mais si ça n'a aucun sens, ce n'est pas la peine d'avoir une armée de terre et d'avoir des plans dans l'OTAN. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas ce que le chef d'état-major des armées a dit, en tout cas il ne me l'a pas dit personnellement. Mais si ça n'a pas de sens, ce n'est pas la peine de s'entraîner et de s'équiper pour. Si on pense que la sanctuarisation du territoire par le nucléaire suffit, c'était par exemple la thèse...
Je vais le dire tout de suite, je pas l'extrait exactement, je ne sais pas si l'expression c'est ça n'a aucun sens.
Mais la dissuasion, pour autant, je le répète, est au cœur de notre stratégie de défense, et bien évidemment, tout se réfléchit à l'aune de la dissuasion. Et que, quand je vois certains commentaires en disant, oui, mais finalement, on tiendrait qu'à un certain périmètre ou à une certaine profondeur de front, on ne serait pas capable de faire plus de 3 jours. En fait, l'armée polonaise, la Pologne n'est pas un état doté. L'armée polonaise, pour imposer sa volonté, probablement qu'elle doit être capable. Et l'armée polonaise se dote d'une armée qui est capable de livrer un combat conventionnel. Non pas que l'armée française ne doit pas être capable de livrer un combat conventionnel. Mais en fait, pour se défendre, la France n'a pas besoin de faire tuer 500 000 hommes. Avant, elle a une dissuasion. Ça ne veut pas dire que l'armée française ne doit pas avoir une force conventionnelle, car tout ceci s'articule et qu'il ne faut pas se faire dépasser ni par le haut ni par le bas. Mais le fait qu'on soit un pays doté est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte et je dis bien qui est probablement le marqueur principal de nos stratégies de défense. Enfin, c'est le cœur de nos stratégies de défense, mais le marqueur principal sur les caractéristiques qui influent sur notre modèle d'armée.
Mais c'est, dans tous les cas, ces tronçons et ces espaces qu'on peut occuper ne se comprennent qu'avec la dissuasion nucléaire derrière.
Oui, bien sûr, ça ne se comprend qu'avec la dissuasion nucléaire derrière, mais c'est exactement ce que je dis dans mon livre. Il y a un chapitre sur la dissuasion nucléaire, sur savoir si elle nous protège, et ma réponse est oui. Elle nous protège. Nous sommes dans un contexte... mais nous avions déjà la dissuasion nucléaire à l'époque de la guerre froide. Penser que la dissuasion nucléaire a réponse à tout face à une menace de haute intensité, je pense que c'est une vision trop radicale. C'était celle, par exemple, du général Pierre-Marie Gallois, qui pensait qu'à partir du moment où on avait l'arme nucléaire, les armées traditionnelles, classiques, ne servaient à rien, qu'il fallait en gros avoir la dissuasion nucléaire et puis une sorte de grosse gendarmerie et que l'affaire était réglée. Je pense que ça ne correspond pas d'abord à la réalité et à la logique de dissuasion telle que ni la France, d'ailleurs, ni l'Alliance Atlantique ne le comprennent. Il y a une articulation entre une dissuasion... Alors, les Français n'aiment pas ce mot parce que...
C'est le tabou absolu.
C'est le tabou absolu, mais il y a une dissuasion
que pour le nucléaire.
Pour le nucléaire, mais ce qui est absolu, c'est idiot.
On emploie de découragement.
Ouais, c'est idiot. C'est cette espèce de franchement, c'est idiot. La dissuasion, elle est globale.
Mais là, on touche vraiment à la doxa.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Mais on peut parler d'épaulement entre les deux, mais découragement, c'est conventionnel.
Oui, bien sûr. Mais c'est la timidité de la pensée. Enfin, c'est pas la timidité. C'est même, je pense, la sclérose de la pensée, de la réflexion stratégique en France, qui nous fait dire des choses comme ça, avec cette hyper concentration de la réflexion stratégique sur les questions nucléaires entre les mains du président. À l'époque du général de Gaulle, c'était pas du tout comme ça. C'est-à-dire, c'était bien lui qui décidait, mais il y avait des discussions, il y avait des débats, il y avait des... J'ai cité le général Gallois, Raymond Aron, le général Beaufre, d'autres étaient animés à une discussion théorique sur la dissuasion. Tout ça, aujourd'hui, tout le monde a peur de son ombre. Et puis, les militaires, les premiers, ont peur d'aborder ce sujet. Pourtant, il est absolument, absolument essentiel pour la défense du pays.
Donc, une dissuasion nucléaire qui est présentée comme, en fait, c'est l'assurance vie de la nation, ça c'est sûr, mais est présentée comme une réponse assez automatique. Il y a plein de chefs d'état-major qui l'ont écrit. De toute façon, nos capacités militaires ne se comprennent qu'à l'aune de la dissuasion nucléaire. Et pour le dire clairement, mais on n'est pas la Pologne. On n'est pas en premier rideau et on a l'arme nucléaire. Donc, ça sert à rien de se comparer à ces pays-là, puisque nous, on se servirait de la dissuasion.
Oui, mais c'est une logique strictement... Comment dire, c'est une logique à courte vue. D'abord à courte vue géographique. Moi, je pense que les intérêts vitaux de la France sont européens. D'ailleurs, les présidents le disent de plus en plus. Notre président Macron le dit de plus en plus. Et c'est pas un tabou. Ça figure déjà d'une certaine manière, dans le livre blanc de Michel Debré de 1972. Est-ce qu'on veut la France seule, isolée stratégiquement, la France comme une île stratégique au milieu de l'Europe ? Dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, bon. Mais alors, dans ce cas-là, c'est pas la peine d'envoyer des troupes en Roumanie ou ou même de monter des plans pour savoir quelles forces on fournirait à l'OTAN en cas de conflit d'engagement majeur. C'est pas la peine. Restons chez nous. Si l'on croit, en revanche, qui est mon cas, que notre destin est européen, dire « nous ne sommes pas la Pologne, que les Polonais se débrouillent et que nous, on assure les choses en second rideau », ne me semble pas responsable. Mais c'est un choix politique, après. Après, c'est un débat qu'on peut, qu'on doit même avoir. Est-ce que on pense que... ce qui arriverait à la Pologne, aux Baltes ou aux Roumains, finalement, bon, bah, ça compte pas. Est-ce que on retrouve la vieille phrase de Marcel Déa, est-ce qu'on va mourir pour Danzig ? Alors, c'est pas Danzig, c'est Vilnius, mais ou Varsovie, mais voilà, c'est toujours la même question. Ce n'est porté que par un projet politique. Soit notre projet politique, il est, on va dire, nationaliste, soit notre projet politique, il est européen. Moi, j'adhère à l'idée d'un projet politique européen, même si je suis absolument sans illusion sur la défense européenne. Mais j'adhère à un projet politique européen. Donc, c'est l'espace, c'est, comme disent des gens qui nous sont chers, c'est le grand continent. Donc, c'est dans cet espace qu'il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui, et pas dans cette sanctuarisation nationale qui me semble aujourd'hui dépassé par les réalités géopolitiques.
Mais même dans ce contexte-là, on utilise un peu la dissuasion, puisque c'est jamais très clair et c'est à dessein, puisqu'il faut toujours qu'il y ait un flou sur pourquoi, comment, quelles sont les lignes rouges de la dissuasion, mais c'est l'idée que les intérêts, donc la dissuasion, c'est pour les intérêts vitaux. Est-ce que les intérêts vitaux, ça touche un petit peu les Européens? En tout cas, il y a des signes qui ont été envoyés par le président Macron, et ça n'a pas commencé avec lui, hein, sur l'idée que, bah oui, mais peut-être que la dissuasion, ça couvre aussi un peu plus large que simplement l'île stratégique que n'est pas la France.
Alors, je suis absolument d'accord avec ça. Il y avait eu une sortie extrêmement malheureuse du président Macron sur une chaîne de télévision dans une émission un soir en disant « Mais non, une attaque nucléaire en Ukraine ou dans les environs de l'Ukraine, ça ne mettrait pas en jeu nos intérêts fondamentaux. » Bon, il avait très clairement fait une sortie de route. Et d'ailleurs, il s'est repris très très rapidement d'un discours beaucoup plus cadré, écrit à la virgule près, un mois plus tard, à Toulon. Et donc, pardonnons cet épisode malheureux. Mais il y a deux choses. Depuis toujours, la dissuasion, le général de Gaulle et ses héritiers et ses successeurs ont considéré que la dissuasion nucléaire française participait à la défense de l'Europe et de l'Alliance, enfin de l'Europe. Et il est vrai que ça a été dit à plusieurs reprises par tous les présidents, et c'est vrai que le président Macron l'a encore redit récemment. Il l'avait dit de manière très explicite lors de son discours de politique nucléaire à l'école militaire en 2020, et il l'a redit récemment en Suède. Ça, c'est une chose, ça, c'est très clair. C'est pas que le territoire national. D'ailleurs, ce serait une absurdité, puisqu'il ne faut pas définir les intérêts vitaux pour se laisser la capacité de discussion, cette zone de flou qui s'inscrit dans la logique même de la dissuasion.
Ça, on peut préciser, c'est peut-être pas très intuitif pour tous les auditeurs, mais c'est simplement l'idée que si vous avez des lignes extrêmement claires l'arme nucléaire...
Si je vous dis mes intérêts vitaux, ils commencent vous à partir du moment où vous avez bombardé, vous avez détruit une ville de 100 000 habitants, le message que vous envoyez à votre adversaire potentiel, comme on disait, pouvez détruire une ville de 50 000, je ne bougerai pas. Donc c'est absurde. Donc il ne faut surtout pas définir ces intérêts fondamentaux, des intérêts vitaux, pardon. Il ne faut surtout pas les définir. Ce qu'on considère, ça reste à l'appréciation du président de la République, et c'est très bien ainsi. Ça, c'est une chose. Il y a une deuxième chose. Et c'est pour ça que ça coince depuis toujours nos affaires de dissuasion concertée, partagée, etc. etc. C'est qui a le doigt sur le bouton ? Et pour l'instant, et parce que ça peut difficilement être autrement, c'est le président français seul. Et donc, on met nos interlocuteurs européens dans une situation très compliquée, en fait. la dissuasion nucléaire française, elle nous protège, clairement, nous Français, mais elle nous isole en Europe. Elle nous isole parce qu'on a un statut à part des autres Européens. Alors on en est très très fiers de ce statut. Le statut de puissance État nucléaire doté au regard du traité de non-prolifération nucléaire et par ailleurs, et c'est indépendant, de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc le fait que nous détenions en termes de pour la défense une arme nucléaire de manière légale au regard du droit international nous isole au sein du continent européen puisque tous les autres pays d'Europe du continent européen à l'exception de la Grande-Bretagne mais c'est un cas très particulier eux n'ont pas le droit de posséder une arme nucléaire puisqu'ils sont signataires du traité de non-prolifération nucléaire de 68 qui crée de manière étrange en réalité deux catégories d'États, les cinq qui possèdent l'arme nucléaire de manière légale, puis tous les autres qui y renoncent. Donc si l'on prend le cas de l'Allemagne, du Danemark, de la Slovénie ou de la Pologne, ces pays ont délibérément renoncé à se doter d'une arme nucléaire en propre pour eux, pour leur défense. C'est sans doute pas mal, ça a évité une prolifération nucléaire tous azimuts. Mais ça a des, comme toujours, la médaille a son revers. Le revers de ça, c'est que si l'on considère, comme le font les Français, et comme le font aussi, comme le fait aussi l'Alliance Atlantique dans ses documents, dans ses concepts stratégiques, que la dissuasion nucléaire reste le fondement de la défense, les pays qui, au regard du droit international, n'ont pas le droit de posséder une arme nucléaire en propre, n'ont pas d'autre solution que de s'en remettre à l'arme nucléaire d'un autre qui, lui, est autorisé à l'avoir, en l'occurrence, les États-Unis. Et donc, on ne peut pas comprendre pourquoi les autres pays européens sont si attachés à l'alliance avec les États-Unis, parce que c'est leur dissuasion nucléaire, en fait. C'est leur dissuasion nucléaire, l'alliance avec les États-Unis, puisqu'ils ne peuvent pas l'avoir eux-mêmes. Il y a eu sans doute des moments d'hésitation dans l'histoire. Le traité de non-prolifération nucléaire, il a été fait en grande partie à l'époque, je parle des années 60, la fin des années 67-68, pour empêcher l'Allemagne d'avoir l'armement nucléaire. Puisqu'à l'époque, il en était question quand même, y compris en collaboration avec la France à la fin de la 4e République, etc. etc. Lorsque les Polonais ont retrouvé leur indépendance par rapport à l'Union soviétique, dans un certain nombre de cercles polonais, la question s'est posée de savoir si, face à l'Union soviétique, ce serait pas bien d'avoir des armes nucléaires. Et le cas le plus évidemment, le plus spectaculaire de tous, c'est celui de l'Ukraine, qui en 1994 accepte que les armes nucléaires soviétiques, donc y compris ukrainiennes, ces armes n'étaient pas russes, elles étaient soviétiques. Et les Ukrainiens étaient des soviétiques, jusqu'en leur indépendance en 1991. Que les armes nucléaires soviétiques, qu'ils avaient payées avec leurs impôts, qui étaient servies par des soldats ukrainiens, qui étaient en partie fabriquées par des ingénieurs et des techniciens ukrainiens, en partie, bien sûr, il y avait des Russes, il y avait des Biélorusses, il y avait tout ce qu'on voudra. Mais ils ont accepté que ces armes soient confiées aux seuls Russes, puis retirés du territoire, de leur territoire, ils se sont désarmés nucléairement, en échange d'une garantie de sécurité sur le fait qu'on ne toucherait jamais à leurs frontières et qu'on respecterait leur intégrité territoriale et leur indépendance nationale. Texte signé par les États-Unis et par la Russie. Alors, où est-ce qu'il en est devenu ? Si l'Ukraine avait conserver ses armes nucléaires contre l'avis des Russes, mais surtout à l'époque contre l'avis des Américains et de tous les alliés occidentaux, il est probable que la Crimée et le Donbass et les autres territoires envahis par la Russie soient toujours ukrainiens aujourd'hui. Jamais, jamais la Russie n'aurait attaqué l'Ukraine dans ces circonstances.
Donc on voit bien cette dimension donc, de la dissuasion nucléaire qui fonctionne très bien dans une équation française, fonctionne moins bien selon vous dans une équation plus large, dans une équation européenne. La question c'est donc si, laissons de côté la dissuasion, parce qu'on ne va pas faire une émission entière consacrée à ça, mais pour cette remontée en puissance qu'on nous annonce, qui est votée, qui est budgétée en tout cas, et là c'est tout à fait l'angle du livre, c'est vous montrer toutes les limites, et tous les angles morts, et toutes les impossibilités en tout cas actuelles pour cette remontée en puissance. La première, il y a tout un tas de déclinaisons, mais vous montrez bien que, bah, en fait, même si on voulait changer de format d'armée, si on voulait avoir plus de gens, il faudrait être capable de les recruter. Et que ça, pour ça, on est encore face à des impasses. Les recrutements des différentes armées peuvent accomplir plus ou moins leurs objectifs, mais dans tous les cas, on n'est pas dans un contexte de recrutement qui permettrait de changer de dimension pour les armées françaises.
Alors moi, je pense que vous avez tout à fait raison. Mais avant de répondre sur cet aspect particulier, je pense que la priorité aujourd'hui de la remontée en puissance, elle ne concerne pas les armées. Je ne pense pas qu'aujourd'hui... Enfin, je parle bien en termes de priorité. La priorité absolue, elle est industrielle. La défense d'un pays, ça repose sur deux pieds, trois peut-être avec la politique, mais ça repose sur deux pieds matériels et réellement existants. Ça repose sur les armées et sur l'industrie de défense, l'industrie d'armement. Il vous en manque une. Il manque un des deux pieds, vous avanchez mal et vous à cloche-pied, vous risquez de tomber. Donc il faut les deux pieds. La priorité des priorités, à mes yeux, aujourd'hui pour la France, n'est pas une remontée en puissance de son armée, et c'est une remontée en puissance de son industrie de défense, c'est-à-dire de sa capacité, non pas à produire des matériels très sophistiqués, d'excellente qualité de niveau mondial, ça, nous y sommes, mais de produire plus, beaucoup plus, et plus vite. On voit bien que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. On voit bien le taux de consommation. C'est pas la même chose d'aller traquer des gars en mobylette ou en 4x4 au Sahel, où on va utiliser une munition de temps en temps, ou d'aider l'Ukraine, aujourd'hui, puisque c'est le sujet actuel, et c'est un sujet qui est extrêmement stratégique pour nous, que l'Ukraine ne perde pas la guerre. C'est essentiel pour notre sécurité. C'est la priorité absolue, c'est l'industrie, la capacité de remonter en puissance. Ce qu'on appelle l'économie de guerre, clairement, on en est loin.
Notamment parce que vous montrez qu'on a donc dimensionné notre industrie sur, oui, sur des équipements très perfectionnés et qui, par ailleurs, ont un modèle économique avec beaucoup de gens qui interviennent dans la chaîne de valeur, avec énormément aussi de PME.
Bien sûr.
Et du coup, ça c'est le constat du livre, c'est très bien, on peut demander à Nexter d'augmenter, de doubler sa production de canon César, on peut essayer. Mais en fait, quand bien même Nexter serait capable de suivre la cadence, ce qui n'est pas le cas, à plein d'égards, ensuite il y a tout un tissu économique qui, eux, ils ne peuvent pas doubler leur canon.
Et là, on constate ce qu'on avait constaté, par exemple, au moment de la crise du Covid, et qu'on constate encore tous les jours, avec les pénuries de médicaments, par exemple. On voit les effets à la fois de la désindustrialisation, depuis une génération, l'effritement du tissu industriel français, et en partie de certaines délocalisations qui ont fait qu'on ne produit plus un certain nombre de choses. L'exemple en France, il y a plusieurs exemples en France, mais il y a notamment celui de la poudre pour l'artillerie et des munitions pour les armes légères. Donc on a délocalisé ces productions. Maintenant, on se rend compte qu'on revient là-dessus. Donc la priorité, vraiment, aujourd'hui, c'est l'industrie. Et il est plus... À mon avis, il est plus facile en quelques mois, ça prend un peu de temps quand même, mais en un an, on est capable de recréer des régiments d'infanterie. On peut prendre des caporaux chefs et les transformer en sergents, et on peut prendre. On trouvera les moyens. Former un soldat, ça prend un fantassin, ça prend quelques mois. Former un. un soudeur dans un certain nombre de technologies navales ou les gars qui font les tubes de canon, ça c'est autre chose. Et vous avez eu raison d'insister sur le fait que les grands groupes, c'est bon, les grands groupes, ils ont de l'argent, ils sont à peu près... ils savent faire, mais les grands groupes, ils ne reposent que sur une, comme on dit en français, une supply chain de fournisseurs, de sous-traitants. Et c'est là que le problème. Aujourd'hui, si on prend Dassault Aviation, il leur faut 3 ans pour faire un Rafale. Mais ils ont du mal à tenir ces 3 ans, non pas parce que leur chaîne de production à Mérignac a des problèmes. Non, tout ça, ça marche simplement parce que leurs sous-traitants ont parfois du mal à fournir juste en quantité suffisante, en nombre suffisant, parce qu'il y a des problèmes de recrutement, il y a des problèmes de matière, il y a des problèmes de matières premières, etc. Il y a un problème de recrutement. Avant le recrutement de l'armée, il y a des problèmes de recrutement. Tous les industriels du pays vous le disent, on a du mal à embaucher des gens. Et c'est ces gens-là qui fabriquent les armements. Donc, priorité absolue à l'armement. Sur les armées, oui, c'est un phénomène nouveau. Les armées françaises sont en train de, comment dire, de rentrer dans la norme des armées occidentales, c'est-à-dire d'avoir de vraies difficultés de recrutement. Là, il va falloir se poser de vraies questions, parce que c'est sans doute appelé à durer. Il faut bien en comprendre les causes, et c'est pas simple. Évidemment, il y a l'amélioration de la situation de l'emploi qui fait que bon, voilà, il est plus facile de trouver un job quand on a une formation technique ou voilà, une bonne formation, on trouve un boulot près de chez soi sans les contraintes militaires. Il y a des choses qu'on avait sous-estimées, la baisse d'acuité visuelle et auditive des jeunes, liée aux écrans et au son dans les oreilles en permanence, qui fait que ils ne correspondent pas aux normes militaires, le surpoids lié à la malbouffe, tous ces phénomènes, surtout d'ailleurs dans les classes populaires, c'est là où on recrute les militaires du rang. Tous ces phénomènes, puis des choses comme le téléphone portable. Priver un jeune de son téléphone portable pendant 15 jours, c'est un vrai combat. Et ça devient des choses, il va falloir que les armées s'adaptent à ça. C'est pas les jeunes, ils vont pas changer parce que leur général aura dit mes jeunes, je veux qu'ils soient comme ça. Les jeunes, ils resteront. La société, elle va continuer à évoluer, qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette évolution, qu'elle soit la baisse de l'acuité visuelle des jeunes, c'est pas une bonne nouvelle, hein. Mais c'est pas parce qu'un général chargé du recrutement décidera que tant pis, on s'en fout, que ça changera. Donc il va falloir que les armées s'adaptent. Et puis il y a sans doute un effet Ukraine dans les difficultés de recrutement en France, parce que jusqu'en 2022, s'engager dans l'armée, c'était en gros partir, vivre l'aventure au Mali, en Afghanistan, en touchant une bonne solde, en l'impression de combattre le terrorisme. Et puis bon, il y avait des morts, mais il y avait au Mali, au Sahel, on a eu 50 morts en 10 ans. 50 morts en 10 ans, c'est une demi-heure sur le front russe, sur le front ukrainien. C'est une demi-heure. Donc c'est pas du tout, 50 morts, tout d'un coup, aux images super léchées des chaînes de télévision et des services de communication des armées, des hélicoptères et des blindés dans le désert malien, avec des uniformes, des pièces d'équipement très modernes, des équipements d'hélicoptères de combat, tout d'un coup on voit ça pendant des années à la télé, et puis tout d'un coup on voit les tranchées de Bakhmout. Et les gens se disent, mais la guerre, c'est peut-être ça maintenant. Et donc, je pense qu'il y a un effet un peu tétanisant sur les familles. T'es sûr que tu veux vraiment t'engager, tu vas aller faire la guerre là-bas, tu sais, t'as vu comment ça se passe maintenant. Puis Gaza ne doit pas arranger les choses non plus. Donc, je pense que là, il y a un phénomène, il y a un changement profond. Les armées doivent y répondre, et les armées doivent y répondre en proposant une offre différente. Et l'offre différente, pour moi, elle passe, c'est quelque chose sur lequel j'insiste assez longuement dans le livre, elle passe par des formats plus souples, et notamment la question d'une systématisation de l'emploi des réserves.
Ça, on en reparlera, mais parce que... Bon, c'est un peu le chantier du siècle, hein, à certains égards, mais notamment les Ukrainiens. Il n'y a pas que en Ukraine que beaucoup de gens prêtent attention à ce qui se fait en Ukraine sur les capacités d'incorporation de la population civile et comment le faire, pas seulement sous un format deux bras en plus pour tenir un fusil mitrailleur, mais comment faire pour intégrer efficacement des capacités acquises par des civils et les mettre au service de capacités armées.
C'est essentiel.
C'est un énorme chantier sur lequel je pense que beaucoup d'armées occidentales, enfin je sais que beaucoup d'armées occidentales commencent à travailler, mais on l'effleure parce qu'il se fait des choses en Ukraine, mais c'est très très loin d'être parfait, tous les retours de l'Ukraine le disent, et il y a une vraie transformation des armées là-dessus. Dont je pense qu'on est juste au début.
Nous, on a un modèle, pardon, je coupe, on a une armée qui s'est qui ne veut pas de ça. Elle insiste en permanence sur la spécificité militaire. Elle s'est enfermée à Ballard dans sa forteresse. Il y a un problème culturel dans l'armée française à ce niveau-là. Or, il faut justement combattre ce repli sur soi. Et arrêter tous ces discours sur la spécificité militaire et au contraire créer quelque chose de beaucoup plus fluide entre la fonction militaire, c'est une fonction, et la société civile. Quelque chose de beaucoup plus fluide dans la perspective de ce qu'on appelait l'ordonnance de 59, 1959, la défense globale. La défense, ce n'est pas l'affaire des militaires, elle doit être conçue de manière globale. Et là, il y a eu un repli culturel, des armées sur elles-mêmes.
Et qui allait avec la professionnalisation.
Qui allait avec la profession.
C'est un truc très bizarre. C'est une équation qu'on avait un peu, mais très mal, absolument. Avec le service militaire qui était très inégalitaire, etc., qui était très problématique.
Oui.
On a décidé de trouver une solution là, mais du
qui
coup...
était plutôt, qui a plutôt été efficace pour ce qu'on attendait des armées pendant cette période. Aujourd'hui, il faut ressortir de cette logique d'une armée fermée sur elle-même.
Alors ça, c'est la taille, en quelque sorte, le périmètre, le volume des armées françaises et aussi de tout ce qui est derrière, donc l'industrie de défense notamment. Et maintenant, j'aurais aimé parler un peu des contours de la géométrie, puisque vous faites aussi un grand panorama là-dessus et de choses qui m'ont beaucoup intéressé, parce que vraiment, c'est des choses que vous avez observées sur le temps long, notamment sur... où est-ce qu'on met l'insistance dans les armées françaises? Quelles sont les armes qui sont importantes? Les armes qui sont importantes, les spécificités plus particulièrement, les branches qui sont importantes, et quelles sont celles qui ont le moins d'attention depuis des décennies? Et là, par exemple, vous montrez qu'en fait, il y a des matériels qui, selon vous, sont oubliés, par exemple dans l'armée de terre française, ou en tout cas dans les armées françaises, par exemple, les drones.
Ouais.
Donc ça, c'est une histoire qui moi m'intéresse tout à fait, parce que c'est une histoire dont j'ai entendu beaucoup de versions. Il y a beaucoup de thèses, de théories différentes sur pourquoi est-ce que l'armée française a du retard sur les drones. Alors dites-nous, selon vous, pourquoi?
Tout le monde est coupable. Voilà. Tout le monde est coupable. Donc, à partir du moment où tout le monde est coupable, personne n'est responsable. Voilà. Non. Évidemment, les drones, c'est un cas d'école systémique de ce qu'il ne faut pas faire. On a, nous les Français, mais c'est le cas de tous les Européens, aucun Européen n'a fait mieux, on est totalement resté à l'écart, d'un point de vue industriel, de cette affaire. Voilà. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Les militaires, ça ne les intéressait pas vraiment. Vous savez, il faut quand un système arrive, un nouveau système arrive, il faut que il soit. Il faut faire de la sociologie. Si vous n'avez pas une organisation, une structure humaine qui considère que c'est son intérêt de défendre ce dossier, son intérêt matériel, pratique de défendre ce dossier, que cette institution n'est pas suffisamment puissante, et bien ça ne se fait pas. Si vous prenez les drones, les gros drones de l'armée de l'air, par exemple, pourquoi ils n'intéressaient personne? Parce qu'il n'y a pas de pilote à bord. C'est aussi bête que ça. Or, l'armée de l'air, c'est une armée qui est dirigée par des pilotes qui plus est des pilotes de chasse. Et un avion piloté depuis le sol, en plus un avion pas tellement sophistiqué, parce que c'est pas très sophistiqué la plupart des drones, ça n'intéressait pas l'institution. Ce que voulaient les gens, c'était des rafales, pas des drones. Les industriels, un industriel de l'aéronautique, mais ça n'intéresse pas de produire un quand vous êtes Dassault et que vous savez faire le Rafale, vous n'allez pas produire un Reaper, ça n'a pas de sens. C'est un Reaper, c'est un avion de tourisme avec trois boules optroniques. Enfin, je veux dire, je caricature, mais et quand vous êtes un producteur, quand vous fabriquez des boules optroniques, bah vous savez pas forcément faire un avion qui vole. Enfin, vous voyez, donc vous êtes dans un système. Alors, qui a été bon sur les drones? Alors, les Américains, parce que les Américains, de toute façon, ont une telle puissance économique et technologique qu'ils peuvent tout faire. Peu importe, ils sont capables de faire le F-35 en même temps que des drones. Ils ont l'argent pour ça. Et puis, de toute façon, ils sont suffisamment nombreux, suffisamment gros pour qu'il y ait toujours une institution, une entreprise, General Atomics, en l'occurrence, pour dire « Ouais, mais moi, je pèse dans l'affaire. » Bon, chez nous, on n'avait pas ça. Quels sont les deux pays qui ont été performants sur les drones? D'abord, les Israéliens. Pourquoi les Israéliens? Parce que les Américains leur ont interdit de faire un avion de combat. Ils étaient en train de faire un avion de combat, les Israéliens, dans les années 80, le Lavi, qu'ils ont sans doute en partie, d'ailleurs, revendu aux Chinois. Bon, les Américains leur ont dit non, vous ne ferez pas d'avion de combat avec qui viendrait concurrencer nos F-16. Bon, les Israéliens ont dit OK. Bah, on va faire autre chose. Comme ils ont bord l'électronique, ils ont fait des petits machins, des petits avions qui volent plus ou moins, mais c'est pas...
Ce qui a été pendant longtemps les seuls drones de l'armée française.
Absolument, voilà. Et ils ont fait... Et puis, alors là, le cas de figure le plus spectaculaire de tous, la Turquie. La Turquie qui, en 10 ans, s'est dotée d'une incroyable industrie du drone militaire. Mais parce qu'ils n'avaient jamais fait voler un avion de leur vie et qu'ils sont rentrés dans ce domaine de manière... ils étaient novateurs, ils se sont construits avec le drone. Et donc, ils sont aujourd'hui un pays important dans le domaine. Mais nous, Européens, ce n'est pas une faute. Vraiment... les Britanniques, les Allemands, les Italiens, personne n'a fait mieux, je veux dire. Voilà. Mais c'est un problème systémique, c'est que personne ne portait ce projet, les drones. Et donc ça ne s'est pas fait, parce qu'il n'y avait ni les industriels, ni les militaires, ni les politiques qui ont dit « oui, c'est bien les drones, mais si je n'ai pas trois généraux qui me bassinent tous les jours et quatre industriels qui viennent frapper à ma porte en disant « ah, vous nous coupez les moyens », machin », les politiques, bon, bah, ils suivent, ils vont dans le sens le plus facile, puis on ne peut pas leur reprocher, ils ne sont pas tous des experts de la chose. Et donc, bah, voilà, ça ne s'est pas fait. Donc, c'est absolument un échec. De même, les Européens, dans un tout autre domaine, ne me semblent pas vraiment avoir été capables de se doter de leur propre GAFA. Nous avons échoué collectivement dans un certain nombre de choses. Les GAFA, c'est à mon avis beaucoup plus important que les drones. Mais ce qu'ils occupent, voilà, c'est un échec systémique.
Ouais.
Donc personne, c'est difficile de désigner un coupable quand c'est le système qui dysfonctionne.
Un deuxième segment qui m'a plus surpris, mais en même temps, en y réfléchissant, je me suis dit que vous aviez raison, c'était, en tout cas pour les armées françaises, c'est les chars lourds. Et ça vous montrait bien, alors ça renvoie à d'autres questions dont on reparlera, mais qui a une prévalence dans les armées françaises, et notamment dans l'armée de terre, mais vous montrez bien... c'est contre-intuitif, parce qu'on répète depuis des décennies que la cavalerie, c'est important, c'est les chars, etc., c'est l'aristocratie, etc. Ce qui est vrai, hein, à plein d'égards. Mais vous montrez bien que, en fait, c'est une cavalerie particulière, c'est les chars légers.
Ouais. Vous savez, il y a des cultures dans l'armée, dans les armées. Il y a des dimensions, oui, culturelles, anthropologiques, dans les armées comme partout. Les armées ne sont pas des institutions rationnelles, au sens où on a décidé, on fait ce qu'il faut. Mais non, bien sûr, il y a des cultures. Les gens ont des cultures. Des cultures souvent, provenant de... Comme toutes les cultures, d'ailleurs, qui sont des cultures héritées. Il y a, si on prend la cavalerie, qui s'est convertie douloureusement à la mécanique durant l'entre-deux-guerres, on scène toujours l'équitation à Saumur. Hein.
La cavalerie barbare sociologiquement, c'est même sociologiquement, enfin, il y a une parenté entre la cavalerie d'hier et la cavalerie d'aujourd'hui. Au-delà des similitudes, paraît-il tactiques, c'est-à-dire c'est une arme de mouvement rapide, etc., etc. Il n'y a pas que ça qui fait une continuité dans la cavalerie.
Non, non. Il y a toujours eu dans la cavalerie, qu'elle soit à cheval ou mécanique, deux cavaleries, la cavalerie lourde, la cavalerie légère. Jusqu'aux années 80, la cavalerie lourde, donc les chars lourds, hein, pour dire les choses.
Bon, là, clairement, c'est le
Leclerc. Les AMX-30, et puis le Leclerc. On sait que c'est le cœur du corps de bataille. Et puis, cette époque se termine, et là, on bascule dans quelque chose de plus léger, qui commence dès les années 80, en fait, avec, par exemple, l'AMX-10 RC, roue canon, qui est justement fait pour la force d'action rapide, pour se projeter vite sur les autoroutes, pour aller vite, pour se transporter vite vers l'avant du front.
Pour mémoire, c'est ce qu'on a passé aux Ukrainiens.
Voilà. Et donc, la cavalerie légère va prendre sa revanche, d'une certaine manière, sur la lourde, comme l'infanterie légère l'a prise sur l'infanterie lourde, etc., etc. Et sous-estimer ces dimensions culturelles de tradition, de régiment, de façon de concevoir les choses, c'est par exemple, ça se traduit de manière extrêmement concrète, c'est la lutte vieille comme le char, enfin comme le blindé, entre la roue et la chenille. Les Français ont totalement abandonné la chenille. C'est la seule armée au monde. À part le char Leclerc, nous n'avons au plus aucun véhicule chenillé. C'est la seule armée au monde dans ce cas. Toutes les grosses armées ont des chenilles. Parce que, regardez les images de Gaza. Et il faut des chenilles.
Pourquoi il faut des chenilles à Gaza? Parce qu'on comprend assez bien en Ukraine avec la boue, etc. À Gaza, pourquoi est-ce que c'est particulièrement plus intéressant?
Mais parce que la roue n'offre pas le... Parce que ça, là, la roue a des avantages, hein. Mais la chenille permet d'abord d'être plus lourd, beaucoup plus lourd. Et sur roue, vous allez jusqu'à 30 tonnes. Le Merkava, il en fait 60. Le char israélien Merkava, il en fait 60. Donc, plus lourd, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de blindage. Il est plus lent. Bon, voilà. Mais c'est toujours cet arbitrage entre la vitesse, la protection, enfin la mobilité, la protection, c'est toujours assez arbitraire. Il n'y a pas de bonne réponse. Ce que je veux simplement dire, c'est que tout ça, ça repose aussi sur des traditions culturelles. Vous me parliez tout à l'heure au sein des armées, vous parliez tout à l'heure, pour en rester dans l'armée de terre, des armes. L'armée de terre française, elle s'était construite historiquement autour de quatre armes, l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie et le génie. Les officiers d'infanterie et de cavalerie sortaient de Saint-Cyr, devenu Coëtquidan. Les officiers du génie et d'artillerie sortaient de Polytechnique. Foch, grand maréchal Foch, était un artilleur sorti de Polytechnique. On voit bien que ce qui s'est passé depuis plusieurs décennies, il y a eu un mouvement très important, c'est que quasiment plus aucun officier aujourd'hui ne sort de Polytechnique.
Ils vont plutôt à la DGA, la Direction Générale
de l'Armement. Il y en a, mais assez peu. Et la plupart des officiers qui feront une belle carrière sortent de Saint-Cyr-Coëtquidan. À Saint-Cyr-Coëtquidan, donc école traditionnellement destinée à former des officiers d'infanterie et de cavalerie, forme désormais les officiers d'artillerie et du génie. Et on voit bien que ces deux armes, l'artillerie et le génie, ont été totalement sacrifiées depuis 30 ans. Totalement sacrifiées. L'artillerie est... Par rapport à l'artillerie des années 80, elle a été réduite aux aquets. De même, le génie. Nous n'avons pas de moyens de génie. On en a, bien sûr, mais on a très peu de choses. Et en artillerie, on a très peu de choses.
Autant d'armes qui, par ailleurs...
On a totalement sacrifié l'artillerie sol-air, par exemple, la défense aérienne. Elle était totalement sacrifiée. Parce que, alors, au sein de l'artillerie, encore, vous aviez la noblesse qui était l'artillerie sol-sol, et puis l'artillerie solaire, bon, c'était un peu des gens d'aviateurs qui tiraient en l'air, c'était pas très... Bon, Et
c'est-à-dire autant d'armes qui d'ailleurs sont redevenues totalement
la guerre d'Ukraine place au centre. Pourquoi les Ukrainiens échouent dans leur offensive de l'été 2023? Parce qu'ils n'ont pas de moyens de franchissement de la ligne de défense russe.
Donc du génie.
Ils n'ont pas de génie parce que personne, parce que toutes les armées occidentales ont fait ça, hein, à un degré plus ou moins fort. Donc on ne pouvait pas leur fournir, parce qu'on les a pas. Ça fait 30 ans qu'on les a plus. Il faut des matériels très particuliers pour franchir des lignes de fortification. Les amateurs d'histoire militaire peuvent se souvenir de ce que les Britanniques avaient inventé pour le débarquement de Normandie avec le général Hobart, ces espèces d'engins bizarres qui jetaient des ponts sur la plage, des fascines, enfin bref, ou des obus qui tiraient à 50 mètres, pas plus, mais pour détruire les bunkers, etc., etc. Donc il faut des engins très particuliers. Clairement, personne n'était en mesure de les fournir à l'Ukraine. Alors en face, en revanche, l'armée russe avait conservé des moyens de génie suffisants, par exemple, pour creuser des tranchées à toute allure et installer des merlonnages partout. Voilà. Bon, ça fait la différence. Donc, des questions culturelles, le fait que, bon, bah, le génie, c'est pas l'artillerie, ce sont des armes moins, comme on dit à Saint-Cyr, qui sortent moins en tête de classement. La guerre électronique, hein, ce n'est pas les premiers qui vont faire de la guerre électronique hein, à Saint-Cyr. Hein. Or, la guerre électronique, on voit qu'elle est indispensable. Hein, voilà, indispensable. On voit comment des traditions culturelles, bon, voilà, qui sont le fruit de l'histoire, peuvent un jour peser sur des situations opérationnelles.
Et un dernier élément qui est particulièrement central, mais c'est manifestement insuffisant, c'est la question de la médecine de guerre, c'est la question du soutien médical à l'avant, qui ça est... Alors je ne sais pas très bien si on a un rétexte exact sur ce qui se fait en Ukraine là-dessus, mais en tout cas qui manifestement, il y a aussi un très gros programme de recrutement au service de santé des armées.
Bien sûr. Ouais.
Mais là, on a aussi un énorme chantier. Je ne sais même pas s'il est pris à bras le corps encore, mais en tout cas qui s'étend devant nous, parce que quand on voit les taux, si on parle d'un engagement de haute intensité, d'un engagement majeur et les taux de perte ahurissants qu'on voit en Ukraine ou ailleurs, il faut des médecins derrière, il faut être capable de les traiter. Et là, j'ai pas l'impression qu'on est vraiment les débuts des pistes là.
Oui, là, je crois qu'il y a, je vais pas dire de bêtises, je crois qu'il y a deux régiments spécialisés là-dedans dans l'armée de terre, un régiment médical. On l'a vu par exemple de manière extrêmement criante au moment de déclenchement de l'épidémie du Covid, lorsqu'il a fallu déployer un hôpital de campagne à Mulhouse, 60 lits. Ça a été laborieux pour déployer 60 lits. Voilà, ça a pris du temps. Bien sûr, notre système est très performant. On est capable de faire des évacuations sanitaires dans des avions super médicalisés, avec du personnel extrêmement bien formé, au bout du monde, les ramener ici dans des hôpitaux de qualité, de niveau international en termes d'équipement. Oui, on est capable, c'est sûr, mais on est absolument incapable de gérer un flux de plusieurs centaines de blessés quotidiens. Absolument incapable. Voilà, ça n'existe pas. Ça, on ne peut pas le faire.
Ça va être un problème. Mais du coup, tout ça repose, enfin, se recoupe avec, comment dire, une attitude. Et ça, c'est une attitude sur laquelle vous insistez beaucoup dans votre ouvrage, sur ce qu'on pourrait appeler, en vous lisant, le syndrome pas un bouton de guêtre. C'est-à-dire, pour faire référence, donc, un peu avant 1871, c'est-à-dire sur
le maréchal Lebeuf.
Voilà, sur l'idée que l'armée
il
française
pas un bouton de guêtre.
Est prête et archi prête.
Voilà.
Et ça vous montre bien, en tout cas, selon vous, que le syndrome, il n'a pas disparu.
Le syndrome n'a pas disparu. Il suffit d'entendre les militaires faire leur éloge. Les militaires m'étonnent toujours, ils font en permanence leur propre éloge. Bon, voilà.
Il faut bien quelqu'un pour le faire.
Non, je pense que... Or, en même temps, ils ne sont pas dupes de l'état de... Mais c'est... là encore, je pense que c'est un syndrome un peu socioculturel d'un monde qui se pense incompris, mal aimé, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout un monde mal aimé. Incompris, je dirais plutôt méconnu qu'incompris. Mais il y a cette sorte, oui, d'isolement volontaire au sein de la société qui repose sur pas grand-chose de très concret en réalité.
Non, mais donc cette, je ne sais pas si on peut appeler ça une suffisance. En tout cas, en vous lisant, c'est un peu l'idée, c'est que donc toutes ces insuffisances que vous détaillez, manifestement, n'ont pas l'air intégrées et en tout cas, n'ont pas l'air admises.
D'un point de vue tout à fait anecdotique, donc ça fait un mois que j'ai publié ce livre, qui rencontre un certain écho, en tout cas médiatique, dont vous me fournissez une nouvelle preuve. Je suis à peu près connu de pas mal de responsables militaires. Je n'ai pas eu la moindre réaction. Ça dit quelque chose, je crois. Des politiques, des chercheurs, mais l'institution militaire n'a pas bougé. Parce qu'effectivement, je pense que la question que je pose, avec une réponse d'ailleurs nuancée, ne plaît pas. Ne plaît pas. Évidemment, pour un militaire, il va vous dire « bien sûr qu'on est prêt ».
Je vais faire le militaire alors que je ne suis pas, mais donc il y a deux réponses qui peuvent vous être faites traditionnellement. La première, je vous l'ai déjà fournie, c'est « mais la dissuasion », on lui a déjà fait un sort au début de cette émission. Et puis la deuxième qui est un peu plus intégrée à votre ouvrage, c'est « oui, mais prêt à quoi ?» C'est la question des scénarios de la menace. Ça recoupe un peu la question de la dissuasion, mais là, c'est « on est prêt pour... » les guerres qui peuvent nous être raisonnablement présentées dans les temps qui viennent, c'est-à-dire on ne va pas voir, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, on ne va pas voir des colonnes de blindés soviétiques débarquer en Alsace, vraisemblablement. Donc, qu'est-ce qu'on sait faire ? On sait opérer dans plein de champs, on sait se diversifier, on n'a rien abandonné, l'armée Banzai, etc. Donc on a plein de capacités, même si elles sont petites. Donc voilà, vu que les blindés ne vont pas débarquer, nous, on sait faire plein de choses qui peuvent aider à droite à gauche.
Exactement. Sauf que, oui, bien sûr, ça c'est la réponse. D'ailleurs, c'est la conclusion de la loi de programmation. Enfin, c'est cette conclusion qui a amené à la loi de programmation militaire. C'est-à-dire, en gros, on ne change rien. On met beaucoup d'argent beaucoup, beaucoup d'argent. Mais surtout, on ne change rien. On arrive dans de nouveaux champs parce qu'on est bien obligé, hein, parce que voilà, l'espace, les fonds sous-marins, le cyber, etc., etc. Mais on ne change rien de notre réflexion stratégique et de nos choix matériels.
Ah, c'est-à-dire, on ne change rien. On ajoute des choses. Il y a des nouvelles fonctions, etc., etc. En tout cas, on ne sabre rien.
On ne sabre rien. Donc on ne fait que rajouter des choses, mais surtout, on ne fait pas des réformes militaires comparables, par exemple, à celles lancées en France dans les années 60 avec le basculement de la guerre d'Algérie, enfin des guerres coloniales, vers la dissuasion, où... Donc ça, c'est Gérald, c'est De Gaulle, 60, ou Jacques Chirac, 95-96, la guerre froide est finie, on fait un corps expéditionnaire. Voilà, donc on n'est absolument pas là-dedans. Comme on a toujours fait, on conserve l'armée de nos habitudes, surtout... Comme ça, tout le monde est content, ça ne fâche personne. Tout le monde aura son petit truc à grignoter dans son coin et tout continuera en paix. C'est la paix sociale dans les armées, dans la réflexion stratégique. Bon, mais pour maintenir ça, ça coûte vraiment de plus en plus cher. La preuve, c'est que le budget des armées va doubler en 12 ans. Bon, c'est un choix. Je regrette que ce choix ne soit pas plus débattu. C'est l'objet de mon livre. C'est le cœur, c'est la raison d'être de mon livre. Je regrette que ce choix ne soit pas plus débattu. Ça ne veut pas dire, je ne dis pas que ce choix est mauvais. Je dis qu'il faut en débattre. Et de ne pas asséner des vérités comme si elles étaient des vérités d'évangile en disant c'est comme ça et c'est pas autrement. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai lu beaucoup d'histoires avec un grand H et notamment une phrase que je cite dans le livre, je crois, de Marc Bloch racontant la défaite de 1940, défaite de 1940 qui est « Ne l'oublions pas, non pas de la responsabilité du peuple français, mais des généraux qui commandaient l'armée française en 1940 et dans les années précédentes 1940. C'est une responsabilité historique que porte le corps des officiers français. Cette défaite était, comme l'explique extrêmement bien Marc Bloch, d'abord une défaite intellectuelle. Les défaites sont d'abord des défaites intellectuelles parce que l'on n'a pas assez réfléchi. On n'a pas fait assez usage de son intelligence. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut sembler paradoxal ce que je vais vous dire, mais je pense que la vraie fidélité au général de Gaulle, au gaullisme qui serait à la base de notre stratégie de dissuasion, enfin de notre stratégie de défense, pardon, la vraie fidélité à la pensée du général de Gaulle, ce n'est pas de répéter ce qu'il disait dans les années 50, c'est de s'inspirer de sa méthode de réflexion intellectuelle et de voir que cet officier, puis ce dirigeant politique, à deux reprises, a été capable de remettre en cause le modèle d'armée qu'il observait. D'abord dans les années 30, en gros, il s'opposait à la doctrine défensive et il plaidait pour changer de doctrine contre tous les grands maréchal Pétain, etc., etc., de passer à un modèle offensif, l'armée de métier, comme il la qualifiait, donc un corps blindé mécanisé, professionnel, capable d'être projeté, etc., etc. Puis, dans les années 60, la remise en cause est de l'armée coloniale, donc d'une armée expéditionnaire coloniale, et également en partie ce gros corps blindé mécanisé pour lequel il avait plaidé dans les années 30 en disant non, c'est plus le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est la dissuasion nucléaire et les hautes technologies. Donc je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin de se réinterroger sur notre outil militaire. Je ne dis pas que j'ai les réponses, ce serait d'une prétention ridicule. Je dis simplement, posons-nous la question. Posons-nous les questions et arrêtons de réciter toujours le même catéchisme politico-militaire que l'on entend, ce ronronnement. Alors que dès lors qu'on rentre dans des discussions privées avec les gens, le responsable, on sent bien qu'ils ont souvent une plus grande liberté de ton. Donc je dis, il faut revenir à plus de débats. C'est pour ça que mon livre, c'est une question. Sommes-nous prêts pour la guerre ? Et que chacun de mes 9 chapitres est également une question. Et ce n'est pas un hasard. Je pose ces questions. Parfois, je provoque pour essayer de susciter des réactions. Mais je pose ces questions. Je pense que le temps est venu de se reposer des questions sur notre outil militaire et sur notre stratégie militaire parce que le contexte géopolitique international en Europe est en train de changer radicalement. Nous assistons à la fin de la période qui s'est ouverte avec la chute du mur de Berlin. Le 24 février 2022, on s'en rend compte progressivement, en fait. Sur le moment, on ne s'en est sans doute pas rendu compte. Marque la fin de cette période de 35 ans. Heureuse période de 35 ans. C'est pour ça que je pleure pas sur les dividendes de la paix. C'était bien d'avoir des dividendes. C'était bien de ne plus être en guerre froide. Et c'est normal qu'on ait un peu baissé la garde. C'est bien. On n'est pas des bellicistes. Mais on sort de cette heureuse période. Alors, qui a été marquée par plein de choses, du terrorisme, des opérations extérieures, etc. Mais bref, le contexte géopolitique change et on retrouve à nos frontières, pas la France, mais l'Europe. Et encore une fois, je dis que c'est pour moi, c'est ça la question, le grand continent, notre grand continent. Nous nous retrouvons avec, à nos frontières, une puissance militaire dotée de l'arme nucléaire, dirigée par un régime extrêmement réactionnaire, qui est un système qui mène une politique révisionniste, qui veut, c'est-à-dire contrairement à l'Union soviétique était aspirait à la stabilité en Europe. Là, nous avons un pays qui aspire à déstabiliser, à changer les frontières, à changer l'organisation de l'Europe, et un pays militarisé et agressif, capable d'envahir son voisin. Ça, c'est nouveau. Et ça ferme la période 1989-2022. Donc, il faut aujourd'hui se reposer des questions sur notre stratégie et notre outil militaire à nouveau frais. C'est ce que je fais sans avoir la prétention d'apporter des réponses définitives. Je fais que des propositions.
Ouais, mais alors parlons-en un peu. Enfin, même des pistes. Enfin, je ne vais pas vous demander des réponses parce que, enfin, on peut pas dire qu'il faut en débattre et avoir des réponses définitives. Mais parce que, par exemple, vous voyez, il y a un élément central de votre livre, c'est aussi de dire, mais en fait, on ne sait pas ce qui va arriver.
On ne sait pas.
On ne sait pas ce qui va arriver.
Ouais.
On ne sait pas ce qu'elle sera,
ouais,
la première,
absolument,
guerre. Les surprises stratégiques. Toutes les guerres, ouais, sont globalement des surprises stratégiques, à part celles qu'on choisit. On ne les choisit pas toutes. C'est central chez vous. Et vous voyez, la réponse de l'institution un peu à ça, c'est de dire, bah, puisqu'on ne sait pas, on va continuer à faire un peu de tout. Parce que, comme ça, on peut remonter en puissance. Comme ça, on n'a rien sabré. Comme ça, bah, on sait toujours faire des obus. On ne sait pas en faire beaucoup, mais c'est mieux qu'avoir perdu les savoir-faire. C'est ce que vous dites aussi sur la logique de club, c'est-à-dire on est dans tous les clubs, on est dans le club nucléaire, on est dans le club des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, on est dans le club atomique, etc., etc. On est dans le club des porte-avions, etc. Mais donc voilà, c'est ça la logique.
C'est une logique.
Et donc qu'est-ce qu'on pourrait savoir ? Par exemple, on a vu il y a quelques années, les Britanniques n'étaient pas très loin d'abandonner les chars. C'était une vraie discussion et
c'est d'abandonner les chars.
Ouais. Qu'est-ce qu'on abandonne ? Pourrait abandonner ?
Moi, je.
Heureusement qu'ils l'ont pas fait. Je pense qu'ils sont contents de pas l'avoir fait.
D'abord, oui, on est toujours surpris par les guerres qui arrivent. Il y a toujours des surprises stratégiques. En revanche, là aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous a surpris, mais qui va durer. C'est-à-dire, c'est ce que je viens de dire sur la Russie. La Russie et va rester jusqu'à, on ne sait pas quand, cette puissance agressive et révisionniste à nos frontières de l'Europe. Ça, c'est un fait. Et donc, il faut qu'on s'y adapte à ça. On ne peut pas, nous, Français, si nous voulons continuer à jouer un rôle important au sein de l'Europe... On ne peut pas dire, bon, ça c'est l'affaire des Polonais, puis nous, on assurera, je ne sais pas quoi, des Polonais aux Allemands. Non, on ne peut pas. L'intérêt de la France, c'est de jouer un rôle important là-dedans. C'est notre intérêt politique, y compris d'utiliser notre dissuasion nucléaire pour refaire de la politique obtenir des gains politiques pour la France dans le paysage de l'Europe qui va se redessiner autour, qui est en train de se redessiner autour de cette Russie agressive et révisionniste, et sous une forme ou sous une autre, on verra bien comment ça se passera, d'un désengagement américain qui soit brutal avec Donald Trump, soit de toute façon plus organisé, plus courtois, plus poli, du fait que les États-Unis n'ont pas envie de rester prioritairement impliqués dans la défense de l'Europe ou dans les affaires du Moyen-Orient, qu'ils ont d'autres soucis et que de toute façon, voilà, il y a une continuité, une continuité de la politique américaine à ce niveau-là. Donc dans ce contexte, la France en tant que France a des intérêts à faire valoir dans le futur paysage européen, puisque notre destin, me semble-t-il, est en Europe, plus qu'il ne l'est, par exemple, en Polynésie. Moi, je suis désolé si je considère que ce qui se passe à Varsovie est plus important pour la France que ce qui se passe à Tahiti. Alors ça fait hurler beaucoup de gens, j'entends, mais il y a un moment, il faut faire la politique de ses moyens et nous n'avons plus et nous n'aurons plus jamais les moyens d'être une grande puissance impériale. Il faut faire le deuil de cette vocation mondiale, globale,
et vous le relevez très bien, ce sont les oripeaux, les derniers vêtements du gaullisme historique, c'est-à-dire des ambitions gaullistes d'être une puissance de premier plan mondial.
Voilà, il faut arrêter avec ça. Voilà, je pense qu'il faut arrêter avec ça. On est un pays qui a un endettement absolument considérable, 3 000 milliards d'endettement, dont les services publics sont en partie en déliquescence. Ça, voilà, ce sont des réalités, ça. Avec une population qui va vieillir, population qui change. Bon, voilà, toutes ces choses-là sont si on parle de défense, la défense de quoi ? La défense du pays réel, pas d'un pays fantasmé. Non, le pays réel, c'est ça. Et donc, il va falloir, je pense, réfléchir. Il faut réfléchir. C'est pas qu'il va falloir, il faut réfléchir à un certain nombre de choix qui se traduiront dans certains domaines par des renoncements, mais qui seront compensés par des gains ailleurs. Je citais le maréchal Foch tout à l'heure. Il n'était pas maréchal quand il écrit, c'est quand il réfléchit au principe de la guerre. Là, l'un des principes de la guerre, c'est celui de la concentration des moyens. C'est une idée essentielle. Quand on a des moyens limités, mieux vaut les concentrer sur des objectifs pour obtenir des résultats. Or, aujourd'hui, nous voyons bien que, avec cette Russie redevenue ce qu'elle est, enfin, devenue ce qu'elle est aujourd'hui, parce que c'est pas, on ne repart pas dans la guerre froide comme à l'époque de la guerre froide. C'est quelque chose de différent. Mais bon, face à la Russie, on a des cartes à jouer, on a des atouts à jouer, et on peut peser. Clairement, qu'est-ce qu'on peserait dans un affrontement en mer de Chine entre les États-Unis et la Chine? Rien. Donc, laissons les Américains gérer l'Indo-Pacifique, voilà, et disons aux Américains, écoutez, l'Indo-Pacifique, c'est pour vous, mais nous, ok, l'Europe, c'est chez nous, et on va s'en occuper. Et je pense que la France aurait politiquement intérêt à sortir de ses rêves de puissance globale, Indo-Pacifique, je ne sais quoi, et à être plus efficace, plus pertinente, là où sont vraiment nos intérêts de sécurité.
Mais là où c'est très intéressant, c'est que ça rejoint les questions de culture que vous, vous abordiez. Et puisque c'est compliqué, parce qu'il y a évidemment la primauté du politique sur le militaire, c'est le politique qui impose ses choix.
Oui, mais ça, c'est les militaires se cachent trop là-derrière.
Oui, mais ce que j'allais dire, c'est qu'en même temps, les politiques, d'où est-ce que leur viennent leurs idées sur l'armée, ça vient aussi des militaires, et c'est une bonne chose, parce que les politiques ne sont pas des professionnels, donc c'est normal qu'ils apprennent au contact des militaires. Mais donc là, il faut réintroduire un élément culturel qui est central dans le livre et dont on n'a pas encore parlé, c'est le fait que on parle quasiment que de l'armée de terre, hein. Il faudrait parler un peu plus de... Mais c'est le fait que, notamment dans l'armée de terre, il y a une prévalence énorme des expéditionnaires, et donc des troupes...
Oui, mais c'est aussi le cas dans la marine, sauf la marine nucléaire, et c'est aussi le cas, en fait, dans une grande partie de l'armée de l'air qui a envie de voler, de faire des d'envoyer ses avions en Nouvelle-Calédonie et à la île de la Réunion. Donc c'est vrai de tout, ce n'est pas vrai que de l'armée de terre.
Et là, c'est intéressant, parce que c'est aussi un enjeu mémoriel que vous soulevez, c'est vous soulevez qu'en fait, on insiste beaucoup sur cette armée expéditionnaire, vague héritière coloniale, enfin, avec une mémoire contrariée, contrastée là-dessus, etc. Mais qu'on a oublié l'armée de la guerre froide,
bien sûr,
l'armée de la dissuasion, et ça se voit...
Oui, enfin, l'armée de la Troisième République. Parce qu'en fait, l'armée française, historiquement, elle a toujours marché sur deux pieds. Elle avait... L'armée, qu'on pourrait dire territoriale, européenne, celle de Napoléon, etc., etc. Et puis, évidemment, à partir de la Troisième République, celle qui faisait face à l'Allemagne, puis celle qui a fait face à l'Union soviétique. Ça, c'était l'armée. Et puis, il y avait une autre armée avec des régiments, avec des unités qui étaient expéditionnaires, les troupes de marine, la Légion, qu'on aurait en Afrique, l'armée d'Afrique, l'armée coloniale, etc., etc., plus lointainement. Ce qui s'est passé au milieu des années 90, c'est qu'on a détruit l'une de ces armées au profit du seul modèle expéditionnaire. Donc la culture du corps de bataille européen, elle s'est évanouie au profit. D'ailleurs, il suffit de voir le profil des chefs militaires pour le comprendre. De beaucoup de chefs militaires, la plupart ont fait...
La plupart sont des marsouins.
Il
y a aussi quelques cavaliers, il y a moins d'artillerie, peu de génie.
Et ça, Par exemple, le général Georgelin était, lui, un pur produit de l'autre armée, de cette armée du corps de bataille européen, voilà. Et il regardait quand même toutes ces affaires avec une certaine ironie, on va dire, voilà. Parce que il venait de ça, il venait d'un régiment d'infanterie d'appelé dans l'est de la France, etc., etc. Donc ça revoit.
Et puis, le paradoxe là-dedans étant que le général Georgelin, à qui ce livre est, je crois, dédié, c'était un de vos amis, vous le dites beaucoup, qui a disparu l'été dernier.
L'été dernier, oui.
A une énorme influence sur les chefs militaires des générations
suivantes.
Oui, mais
bien sûr, bien sûr.
C'est que lui avait beau être issu de ce modèle d'armée, beaucoup des chefs militaires d'aujourd'hui sont venus aussi de son influence et ont grandi avec lui. Et il est pas, enfin,
il est pas
séparé de la de
non,
ça
non
plus.
Bien entendu. Mais vous savez, l'armée française. Et puis bon, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé.
Qui est
important.
Il a été chef d'état-major.
Ce qu'est l'armée française d'aujourd'hui, c'est d'où elle vient. L'armée française, elle s'est effondrée en mai-juin 40, totalement. Comment s'est-elle reconstruite? Elle s'est, à partir de 1943, elle s'est reconstruite avec l'armée d'Afrique, c'est-à-dire l'armée qui était en Afrique du Nord, qui était restée vichiste, on va dire, jusqu'en 1943, et sans doute bien après. Et avec ce petit greffon de gens pour lesquels j'ai une forte sympathie, des forces françaises libres, mais qui était qu'un petit greffon, parce que c'était pas grand-chose en réalité, en termes d'effectifs. Et donc, l'armée française s'est reconstituée. Et puis, c'est pour ça qu'elle a replongé, c'est comme ça, plus exactement, qu'elle a replongé dans les guerres coloniales, l'Indochine et l'Algérie. Quand De Gaulle revient, il la maltraite, cette armée, tel point qu'elle se soulèvera contre lui. Elle essaiera de l'assassiner avec l'OAS. Et il la retransforme. Et il en refait une armée avec peu de moyens, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que les budgets de la défense ont considérablement baissé à l'époque du général de Gaulle. On était parti de dépenses énormes à l'époque de la guerre d'Algérie, et pendant toute la durée de son mandat, les dépenses militaires... Alors, on est dans une période de croissance économique, certes, mais la part du budget de la défense baissait. Et donc, une armée de terre... Finalement, il a refait un corps de bataille avec la première armée, un corps de bataille européen, mais qui était mal équipé, mal entraîné, assez peu considéré. Bref, c'était pas une armée très heureuse, on va dire. Voilà, c'était pas une armée dont les gens gardent un souvenir ébloui. Et cette armée, elle a souffert en fait, et elle a eu l'impression de revivre à partir des années 90, lorsqu'enfin on a pu aller faire des trucs un peu à l'extérieur qui étaient quand même un peu plus marrants que les manœuvres en hiver en Allemagne, quoi. Donc tous ces éléments culturels sont essentiels à comprendre.
Enfin, et comme perspective sur toute cette question, donc on l'a dit, il y a un format des armées françaises, il y a une montée en puissance qui est possible, empêchée, qui sont des défis. Et puis derrière, il y a des choix que vous avez dessinés à faire, si on veut avoir les moyens, enfin si on ne veut pas arriver à 5% du PIB pour les armées, ce qui n'est pas une fatalité, mais a priori, c'est quand même pas le chemin qu'on prend. Et du coup, la question, c'est... Donc, sommes-nous prêts pour la guerre? Vous répondez sans embâge au début et à la fin, non. Pas prêts pour la guerre, mais. Et c'est ça qui est intéressant, et surtout la piste que vous dessinez, c'est de toute façon, on n'est jamais vraiment prêt pour une guerre. Par contre, et c'est là que vous insistez, et on en a parlé un peu, c'est la question de la résilience. Alors ça, c'est toute une partie, c'est toute une question du livre, mais aussi de l'adaptabilité. Et ça, c'est ce pourquoi vous plaidez très fortement.
Je plaide pour l'adaptabilité. Je plaide pour la souplesse. Et la souplesse, elle est d'abord intellectuelle. Si, sans souplesse intellectuelle, sans capacité de contradiction, d'assumer les contradictions, d'assumer un débat, d'assumer ses peines perdues. Donc c'est pour ça qu'il faut réouvrir le débat stratégique, y compris avec les militaires. au sein des armées, beaucoup plus. Il faut que les paroles se libèrent, y compris sur la dissuasion nucléaire, qui ne doit pas être le tabou réservé à 3 personnes autour du président de la République. Il faut remettre tout ça. Je suis paradoxalement, ça en étonnera peut-être certains, je ne suis pas du tout... Mon livre n'est pas un livre pessimiste. Je suis... absolument persuadé de...
Il est inquiétant, mais pas pessimiste.
Oui, je suis absolument persuadé que le peuple français, les Français, sont résilients et qu'ils sauraient faire face à une situation grave. J'en veux pour preuve 2 événements récents. Les attentats de 2015, où on a vu un peuple se tenir, soutenir ses forces de sécurité, accepter des restrictions de liberté pour lutter contre le terrorisme, et le combat est gagnant. Et on l'a vu alors de manière encore plus évidente au moment du Covid, avec un peuple qui accepte des mesures des mesures incroyablement restrictives en termes de liberté de circulation, de voilà. C'est un peuple qui a... Et le pays a continué à fonctionner. Donc, on voit bien que nous avons en nous... nous ne sommes pas un pays foutu. Ça, c'est les déclinistes dont je ne suis absolument pas, peuvent répéter ça à l'envi. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas un pays foutu. Nous avons des capacités de réaction, de résilience. Voilà. Mais il faut qu'on ait plus de souplesse intellectuelle, parce que s'il n'y a que la souplesse intellectuelle qui permet de se préparer à des adaptations rapides, c'est-à-dire la capacité à changer et la capacité à faire autrement. On voit bien qu'on n'y arrive pas. Je ne parle pas du domaine militaire, mais on voit bien qu'on peut faire toutes les déclarations qu'on veut depuis des années sur il faut réformer l'État, il faut simplifier. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on n'ose pas remettre en cause un certain nombre de choses. Bon, donc je plaide pour qu'on aille plus dans ce sens-là, mais avec aucun... vraiment aucun sentiment de déclinisme. Et je ne pense pas que nous soyons condamnés à la médiocrité. Et ce qui m'agace parfois, c'est les gens qui pensent qu'ils sont plus patriotes que les autres. Nous, on sait qu'il faut faire des choses pour la défense, mais les Français, eux, ne savent pas, ils comprennent pas les nécessités. Non, ça, je n'adhère pas du tout à ce discours. Je crois que les Français seraient capables de réagir. Les jeunes Français d'aujourd'hui sont différents de ceux de 1914, mais je ne suis pas sûr qu'ils ne seraient pas capables de dans des circonstances évidemment incomparables, mais qui ne seraient pas capables de faire la même chose que ceux de 1914. La preuve nous en est fournie, je crois, par les Ukrainiens ou par les Israéliens, au risque de choquer quelques sensibilités. On voit des gens qui sont capables de faire des choses assez étonnantes en termes de mobilisation militaire. Donc, moi, je crois que nous en serions capables.
Merci beaucoup Jean-Dominique Merchant.
Merci à vous surtout.
Je vais rappeler donc les références de votre ouvrage. Sommes-nous prêts pour la guerre? L'illusion de la puissance française, paru il y a quelques semaines maintenant, chez Robert Laffont. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux du Rubicon, tout comme notes et appréciations sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.